Alors, Pierre-Yves, il ne manquait qu'un État américain pour approuver la construction de l'oléoduc Keystone XL, le projet controversé de la société TransCanada qui doit acheminer le pétrole des sables bitumineux jusqu'aux raffineries de la Côte-du-Sud. Et le Nebraska, donc, cet État, a dit oui aujourd'hui. On pourra donc aller de l'avant avec le projet d'oléoduc.
830 000 barils par jour, Paul. Quand on y pense, mettez-les un à côté de l'autre, c'est énormément de pétrole chaque jour. Évidemment, on peut s'opposer au projet, dire qu'il y a des conséquences potentielles, parce qu'un déversement d'un oléoduc, comme on a vu récemment,
ben, la semaine dernière,
beaucoup. C'est ça, c'est beaucoup de pollution.
Excuse-moi, mais il y a 800 000 litres qui se sont écoulés, qui sont répandus dans l'État voisin du Dakota du Sud.
Contrairement à un camion ou contrairement à un train, il n'y a pas une limite. Hein? On s'entend, tant que le flot n'est pas coupé, ça continue de couler. Donc, c'est extrêmement difficile à contrôler. Mais le point qui est intéressant, c'est l'appel au boycott du pétrole et notre comportement. Fais le parallèle avec, par exemple, Petro-Canada. Il y a cette semaine, les gens sont sur les réseaux sociaux. On organise un boycott de Petro-Canada sur les réseaux sociaux. Et les gens disent, on va boycotter telle date Petro-Canada. Est-ce qu'on va arrêter de mettre de l'essence dans nos voitures? Non. Est-ce qu'on va changer nos habitudes? Non. Alors, d'un côté, le consommateur a de belles vertus, mais de l'autre côté, c'est pas parce que tu boycottes une pétrolière une journée que la demande va diminuer, que ça va changer le baril de pétrole pour le restant de l'année ou même pour une journée. Si ça arrive, si ton boycott réussissait pour une journée, tu ferais juste mal à une station-service, à un détaillant, mais pour une journée, ça changerait pas la réalité du pétrole et ça ferait pas en sorte que le lendemain, on n'irait pas remplir le baril, le réservoir deux fois plus. Donc, faut faire attention à ça, Anthony, entre nos valeurs, notre désir et ce qu'on fait comme geste quotidien. Donc, la demande est liée aux demandes quotidiennes des gens. Donc, oui, si c'est pas du Keystone, ça va être quand même des trains, ça va être quand même des camions, ça va être quand même du transport par bateau. Il y aura toujours du pétrole tant qu'il y aura une demande. Évidemment, une installation comme ça et des investissements comme ça font en sorte qu'on baisse le coût d'exploitation et ça fait en sorte qu'on maintient le pétrole plus longtemps et qu'on veut rentabiliser le projet. Donc, effectivement, pour l'opposition, il y a un lien économique à faire.
Mais il est important de rappeler que quand ça arrive, ça arrive. Et 800 000 litres de pétrole qui se répand, comme la semaine dernière, toujours dans un projet Keystone, dans le Dakota du Sud, ben, c'est l'équivalent de la production d'une journée là, du projet XL.
Et on s'entend, on veut pas que ça se fasse chez nous. 800 000 litres, Paul, mais pas 800 000 barils. Il faut faire une nuance un petit peu. Là, c'est 800 000 litres, mais quand même,
alors,
c'est énormément
oui.
de pollution.
Oui. La capacité de production, ça va être 830 000 barils de pétrole par jour. Bell Media, le couperet tombe.
Oui, on a coupé des emplois. On prévoit à peu près 50 emplois à travers le Canada dans le média. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir financièrement, ce que ça veut dire. Quand on regarde Bell Media fait partie de BCE, et quand on regarde les résultats trimestriels de BCE, on se rend compte que dans la marge d'exploitation, mais la marge d'exploitation est générée beaucoup par le sans-fil à près de 43%, la ligne par 42%, et le Bell Media génère juste 25,9% de marge. Donc, Bell Media sert à générer du contenu pour Bell. Donc, la valeur, c'est surtout dans le contenu, parce qu'un distributeur n'a pas d'exclusivité, n'a pas d'avantage si on ne génère pas du contenu spécifique. Donc, Bell Media sert à ça. Maintenant, est-ce qu'un bulletin de sport régional est vraiment plus payant qu'un bulletin de sport national et vraiment va générer plus de valeur pour l'auditeur? Et c'est ça qu'on tente de couper. Tu sais, au Québec, c'est un peu ça qui est arrivé avec Rogers. On veut faire de quoi de national. Puis on se dit, ben, tu sais, les revues québécoises francophones, là, on va s'en départir, ça n'ajoute pas de valeur pour notre modèle d'affaires. Bien que ça nous déçoive, c'est la réalité. Donc, c'est un peu la même chose. On tente de couper tous les emplois qu'on peut et gérer ça centralisé, plus à Toronto, et avoir moins de régional si on veut. Évidemment, il y a des coûts liés à ça, il y a une déception du consommateur, mais au bout du compte, c'est une décision d'affaires. Et quand on regarde les résultats, on se rend compte qu'on a quand même, au niveau d'un trimestre, bon, 5,6 ou 7 milliards de revenus et quand même un bénéfice de 2,4 milliards.
Et terminons avec la plus grande source de stress pour les Québécois. Devinez quoi? L'argent.
Oui, évidemment, selon l'Institut québécois de la planification financière, 31% des personnes sondées se disent stressées par la question, plus que le travail, à 21%. Évidemment, les gens vont dire, ben c'est lié. Si je suis stressé par l'argent, c'est parce que je gagne pas assez. Oui, mais ce n'est pas ton travail qui te stresse, mais la capacité de générer de l'argent. La santé vient à 10% ensuite. Et il y a des conséquences, parce qu'évidemment, si tu manques d'argent, c'est une discussion à la maison, donc 42% disent qu'il y a des chicanes de couple liées à ça. Après ça, 29% vont avoir de l'insomnie. Et les cachotteries, donc, on va cacher un proche à 26% pour l'insomnie. Donc, tu vois, et il y a l'anxiété qui arrive en tout premier à 42%. Donc, ici, on voit très bien qu'il y a une série de conséquences. Et quand on regarde un autre sondage publié par RBC, on nous dit, écoutez, l'épargne pour la retraite, c'est le principal objectif lié aux finances, mais c'est aussi à 48% pour des temps difficiles, donc pas nécessairement pour 65 ans et plus, mais pour prévenir des malchances et pour réduire la dette, 42%. Donc, 42% des gens épargnent pour réduire la dette dans leurs objectifs. Donc, tu vois, Paul, c'est très préoccupant, mais imagine-toi donc que 30% des gens, ben, ou le tiers, disons, ne veulent pas vraiment en parler à leurs proches.
C'est comme un sujet tabou.
C'est un sujet tabou. Donc, il y a seulement une personne, excuse-moi, une personne sur cinq qui parle de finances à son entourage.
20% qui parle de finances.
Sans aucun problème, sans sentir de culpabilité
c'est pas
ou
beaucoup.
De stress lié à ça.
Et tu fais partie de 20%, toi, Pierre-Yves.
Ah, même chez nous, Paul, ça peut générer des chicanes. Mais non, chez nous, ça va bien. Mais comme tu as raison, Paul, il y a 80% des gens qui sont gênés d'en parler à un proche.
Écoute donc.
Incroyable.
Merci, Pierre-Yves. À
salut,
demain.
Paul.